Alors, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec une série de documents assez fascinants qui nous brossent un portrait du Maroc en ce début d'année 2026.
Oui, c'est un tableau plein de contrastes. D'un côté, on a une manœuvre politique très orchestrée au sommet du RNI.
Et de l'autre, des projets d'infrastructures, mais alors colossaux, des tensions juridiques dans le sport et même une histoire de pétrolier fantôme.
C'est ça. Et l'idée, je pense, c'est de décortiquer un peu tous ces signaux, de comprendre comment le pouvoir se maintient, comment il s'adapte, tout en projetant le pays vers l'avenir.
Exactement, c'est cette tension en fait entre une forme de permanence du système et une ambition économique qui est assez dévorante.
Bon, alors, par quoi on commence?
Allons-y, plongeons directement dans le cœur du réacteur. Le départ annoncé d'Aziza Kanouch de la présidence du Rassemblement national des indépendants.
Le RNI, oui.
Ce qui est frappant dans les articles, c'est vraiment le vocabulaire. On parle d'une transition sans crise.
Sans fronde clinique.
Presque clinique, voilà. Ce calme est presque assourdissant, non?
Absolument. En fait, le calme, c'est le message. Il y a un éditorial qui utilise une métaphore que je trouve très juste, celle du proxy politique.
Ah oui, le proxy en informatique.
Exactement. C'est un intermédiaire. Vous changez l'interface, mais le serveur central, lui, il ne bouge pas. Le cœur du système reste le même.
C'est donc ce qui se passe ici. Akhanouch quitte la présidence du parti.
Mais il reste chef du gouvernement et bien sûr une figure économique centrale. Donc le RNI change de visage, mais pas de cerveau, en quelque sorte.
Et ce nouveau visage, Mohamed Chaoubi?
Alors lui, c'est un signal en soi.
Oui, une chronique le résume avec une question un peu assassine. Chao, qui est?
Ça en dit long.
Ça en dit très long. On le décrit comme un expert financier, un technocrate, diplômé d'Alakawine.
Ouais, avec une expérience politique assez mince finalement, un seul mandat de député.
Voilà. Et le détail qui est souligné partout, il est présenté comme le protégé d'Akhanouch. Il a même été administrateur chez Afrikia Gaz.
La filiation est claire. C'est une nomination qui coche toutes les cases de la loyauté, de la continuité.
Et qu'est-ce que ça nous dit sur l'état du parti lui-même?
Ben, ça nous dit beaucoup de choses. Déjà, on a une candidature unique qui est validée en amont par le bureau politique. Les articles insistent bien là-dessus, ça marginalise les figures historiques du parti, les fameux ténors et cadors.
Il se retrouve spectateur, en fait.
Exactement.
Spectateur d'une succession qui a été décidée dans un cercle très restreint.
On a l'impression d'un retour en arrière. Akhanouch avait fait du RNI une machine de guerre électorale, un parti coup de poing pour gagner en 2021.
C'est tout à fait ça.
Et là, une fois la victoire en poche, il le ramènerait à son rôle plus, disons, historique.
De faiseur de majorité.
C'est l'analyse qui ressent, oui. D'un outil de conquête, on repasse à un outil de gestion du pouvoir.
Quel est le risque d'une telle stratégie?
Le risque, et c'est un point soulevé dans une des analyses, c'est de confondre cette stabilité avec de l'immobilisme. Un parti, ça a besoin de débats pour vivre. Si toutes les décisions importantes sont prises en dehors de ces instances, il risque de se vider de sa substance, de se dévitaliser à moyen terme.
Et la grande question, c'est de savoir si ce proxy, ce Mohamed Chaouki, pourra un jour s'émanciper.
C'est tout le pari. Est-ce qu'il aura une marge de manœuvre réelle ou est-ce qu'il restera, disons, le gérant de l'héritage?
L'histoire politique est pleine de dauphins qui ont pris leur envol, ou pas?
Ou pas. Pour l'instant, le message, c'est celui d'une maîtrise totale du processus. On verra ce que l'avenir nous dira.
D'accord. Donc, pendant que cet échiquier politique est réarrangé avec une précision chirurgicale,
Le pays, lui, n'est pas du tout à l'arrêt.
au contraire, il est en plein chantier et ça nous amène tout droit aux infrastructures géantes. En tête de liste, le projet Nador Westmed.
Oui, il y a eu une réunion de travail très importante présidée par le roi fin janvier 2026 à ce sujet.
Alors, Nador Westmed, c'est quoi exactement? C'est un nouveau tangème?
C'est plus que ça, c'est vraiment la deuxième pièce maîtresse du puzzle logistique marocain. Après le succès de Tangemed, l'idée c'est de créer une façade méditerranéenne ultra compétitive.
Ce n'est pas juste un port, donc.
Non, c'est un projet totalement intégré. Vous avez le port en eau profonde, bien sûr, mais il est adossé à une immense zone industrielle, logistique et aussi énergétique.
Les chiffres qui sont cités sont assez vertigineux. On parle de 51 milliards de dirhams d'investissement.
Oui, public et privé.
Et en termes de capacité?
La capacité initiale, c'est 5 millions de conteneurs par an, avec un potentiel qui pourrait monter jusqu'à 12 millions. C'est colossal.
C'est du même ordre de grandeur que Tangemed.
C'est ça. L'idée, c'est moins la concurrence que la complémentarité. Mais l'élément qui est vraiment, vraiment stratégique à Nador, c'est la souveraineté énergétique.
Ah oui.
Le projet intègre le tout premier terminal de gaz naturel liquéfié du royaume.
D'accord.
On parle de 5 milliards de mètres cubes par an. Dans le contexte géopolitique qu'on connaît, avoir sa propre porte d'entrée pour le GNL, c'est un atout majeur.
Ça change complètement la donne. Et pour financer tout ça, il faut des finances publiques qui suivent.
Forcément.
Justement, une note mentionne une déclaration de Fouzil et Kadja, le ministre délégué au budget. Il annonce des recettes ordinaires de 424 milliards de dirhams pour 2025.
Une hausse de plus de 14% par rapport à 2024. C'est énorme.
C'est ce qui permet de concrétiser ces projets.
C'est le nerf de la guerre, hein. Sans cette performance fiscale, ce serait bien plus compliqué. Ça donne les moyens à l'État et ça envoie un signal de confiance aux investisseurs privés. Ça montre que la machine tourne.
D'accord. Donc, une scène politique intérieure très contrôlée et une économie en pleine construction. Comment ça se traduit sur la scène internationale ?
Alors, là aussi, c'est un jeu sur plusieurs tableaux, entre apaisement et fermeté.
Commençons par le positif. Le réchauffement avec la France a l'air de se confirmer.
Oui, le chiffre de 300 000 visas accordés aux Marocains en 2025, c'est plus qu'une statistique. C'est un vrai baromètre diplomatique.
Ça marque la fin de ce qu'on a appelé la crise des visas.
Absolument. C'était une période de froid qui avait vraiment tendu les relations. Cette normalisation, elle est cruciale pour les étudiants, les entrepreneurs, les artistes. C'est la reprise d'une circulation fluide.
C'est un signe de détente très tangible.
Très.
Mais tout n'est pas aussi simple. Il y a cette histoire incroyable du pétrolier Chariot Tide.
Ah oui, ça, c'est un vrai cas d'école. On dirait un scénario de film.
Un navire qui tombe en panne, qui est secouru par l'Espagne et remorqué vers Tanger Med. Sauf que ce n'est pas n'importe quel navire.
Pas du tout. Le Chariot Tide, il est sur la liste noire de l'Union européenne. Il fait partie de ce qu'on appelle la flotte fantôme.
La Shadow Fleet.
C'est ça. Ce sont des dizaines, des centaines de vieux pétroliers, souvent mal assurés, qui servent à transporter du pétrole russe pour contourner les sanctions. Un business très opaque.
Et l'un d'eux se retrouve en panne, juste à côté de Gibraltar, et finit dans un des ports les plus modernes du monde. Le casse-tête pour les autorités marocaines a dû être immense.
Monumental. Qu'est-ce qu'on fait d'un navire paria, qui est sous sanction par votre principal partenaire commercial, l'UE ? Cet incident, en fait, il place le Maroc au cœur d'enjeux qu'il dépasse complètement.
C'est un exemple parfait de comment un problème local peut devenir une affaire internationale.
Instantanément. Il n'y a plus de frontières étanches.
Et cette fermeté, cette volonté de défendre ses intérêts, on la voit aussi dans le sport. La Fédération marocaine de foot, qui saisit le tribunal arbitral du sport à Lausanne, c'est un geste fort.
C'est un acte à la fois juridique et politique. Le conflit, il porte sur la finale de la CAN 2025.
D'accord.
La Fédération marocaine conteste une décision du jury de la Confédération africaine de football, la CAF, suite à ce qu'elle appelle un abandon de terrain par l'équipe sénégalaise.
Elle juge la sanction disproportionnée.
C'est le terme utilisé, oui.
Et en allant au TAS, qu'est-ce qu'elle cherche au fond ?
Elle cherche à sortir l'affaire du cadre purement africain où les jeux d'influence politique peuvent jouer un rôle.
Pour la placer sur un terrain plus neutre.
Voilà. Le terrain du droit sportif international, c'est une façon de dire « on veut que ce cas soit jugé selon les règles, loin des arrangements ». C'est un bras de fer pour affirmer son poids.
Très clair. Allez, pour changer un peu de rythme, on fait un petit tour rapide d'autres nouvelles.
Bonne idée.
Je commence. En Espagne, juste à côté, un vote historique, la régularisation de 500 000 sans-papiers.
Décision énorme, avec des répercussions directes pour le Maroc, qui est à la fois pays d'origine et de transit. Ça va forcément changer les dynamiques.
À vous.
Côté tech, la société Icematch qui attaque Apple en justice.
Pour la fonction de correction du regard dans FaceTime. La guerre des brevets ne s'arrête jamais. Hein.
Jamais.
J'enchaîne toujours dans la tech. La promesse d'une révolution des batteries de smartphones pour 2026.
J'ai l'impression d'entendre ça tous les ans.
Moi aussi, mais j'ai envie d'y croire.
On attend de voir si notre téléphone tiendra enfin plus d'une journée. Plus sérieusement, un vrai tournant. À New York, la plateforme de jeu Roblox est maintenant considérée comme un réseau social.
Ah oui, avec obligation de vérifier l'âge.
C'est la reconnaissance que ces métavers sont devenus des lieux de socialisation majeurs pour les jeunes.
Tout à fait. Et pour finir sur des notes plus locales, un gros contrat pour l'entreprise Jet Contractors.
156 millions de dirhams pour valoriser le site archéologique de Sijil Massa.
Un bel investissement dans le patrimoine.
Et la touche glamour pour finir, Marrakech classée 3e ville la plus romantique du monde.
Bon, ça, pour quiconque y est déjà allé, ce n'est pas vraiment une surprise.
On est d'accord.
Bon, si on essaye de rassembler un peu toutes les pièces, ce début 2026 au Maroc, c'est l'image d'un pays à deux vitesses.
C'est ça.
D'un côté, une sphère politique où la priorité, c'est le contrôle, la maîtrise, la continuité. On l'a vu avec le R-Arnie.
Et de l'autre, une projection économique, diplomatique, qui est extrêmement ambitieuse et volontariste.
C'est cette tension qui est au cœur de tout, en fait.
Oui. Et pour revenir à notre point de départ, cette succession par proxy au RANI, ça pose une question fondamentale sur l'équilibre entre la stabilité et la vitalité.
La stabilité est assurée, c'est clair.
C'est le but de la manœuvre, oui.
Mais est-ce qu'un système politique peut vraiment prospérer sur le long terme, sans débat, sans compétition interne, bref, sans une certaine vitalité démocratique ?
Et est-ce qu'un mandataire peut développer sa propre vision ?
Ou est-il condamné à n'être qu'un exécutant ? C'est toute la question. C'est la question à 1 million de dirhams. Et ça m'amène à une dernière idée, un point qui crée une friction assez fascinante avec tout ça.
Je vous écoute.
Dans les documents, on mentionne une charte du 11 janvier 2026 pour la jeunesse. C'est un appel vibrant, lancé à la génération Z pour qu'elle prenne le relais de l'histoire. On parle d'un nouveau pacte d'émancipation.
C'est un discours très fort, très tourné vers l'avenir.
Exactement. Et le contraste est saisissant avec le modèle de succession politique qu'on vient d'analyser.
Qui est l'incarnation même d'un système vertical et contrôlé.
Voilà. Le relais y est très soigneusement orchestré d'en haut. Alors la question un peu provocatrice qui en découle, c'est comment un système qui valorise à ce point le contrôle peut-il sincèrement faire de la place à ces nouvelles générations qu'il appelle de ses voeux ?
Peut-on demander à la jeunesse de prendre le relais ?
Tout en lui indiquant très clairement le chemin déjà tout tracé qu'elle doit suivre. La réponse à cette question définira sans doute une grande partie de l'avenir du pays. La question reste ouverte.